France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il y a une influence du touriste sur Venise qui est plus forte que l'influence de Venise sur le touriste, regrette l'un des invités voyageurs, explorateurs de Venise, dans l'émission qui vient, la première d'une série proposée à la fin des années 60 sur France Culture. Vous êtes allé à Venise, où vous rêvez de vous y rendre, a priori accompagné. Mais bien sûr, vous ne serez pas des touristes. Les touristes, ce sont les autres. Bien, pour commencer, l'île de Torcello, puis Rialto et la Piazza San Marco. Venise, il faut des heures pour la connaître, des heures à la radio, s'entend, des heures vénitiennes. Voici la première d'une série proposée par Bronislav Horowitz, diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 septembre 1969.
Oh Venise, Venise, quand tes palais de marbre se seront écroulés dans les eaux, les nations se lamenteront sur tes ruines et l'on entendra des cris de douleur au bord de la mer destructive.
Heure vénitienne. Une série d'émissions produites et réalisées par Bronislav Horowitz et enregistré à Venise par René Huyghe et Marcel Brion de l'Académie française. Aujourd'hui, Torcello, Rialto, Piazza San Marco.
Il y a 15 siècles, au temps où Ravenne, couchée à l'ombre de sa forêt, resplendissait sombrement, telle une basilissa luxurieuse, ici, sous le ciel de Venise, il n'y avait rien qui annonçât Venise. Il y avait un grand marais, bordé de plages incertaines, hérissé de roseaux, parsemé d'îlots sauvagement verdoyants, envahi et ravagé de temps en temps par de furieux courants d'eau douce et d'eau amère. Sur quelques îlots plus solides que les autres, et sur les bords de la mer, habitait une peuplade de saliniers et de pêcheurs, de petits maraîchers, de petits nautonniers, vaguement assujettis d'abord à Rome, puis à Byzance, sans autre histoire que celle de sa pauvre existence quotidienne. Et il y avait la mer, qui montait tous les jours, comme elle monte à présent, jusqu'à couvrir les îlots les plus bas, et qui ne cessait jamais de ronger les terres un peu plus élevées, où ces gens s'obstinaient à vivre et à mourir ignorés. Venise est en somme une créature de volonté et de foi, mieux, de poésie. Et justement parce qu'elle est de substance poétique, elle existe toujours dans sa forme et avec son âme originelle, tandis que sont mortes, perdues à jamais, les saisons historiques qui furent les siennes. Non seulement elle existe, mais elle semble renaître, se recréer chaque matin comme si elle sortait du néant, par la force de sa volonté primitive. Le paysage naturel d'où elle émergea au premier jour est encore là. Eau de lagunes qui s'étendent tout alentour et s'insinuent et circulent par cent veines dans son sein, rivages effilés qui la défendent des assauts de la mer, îles cultivées et îlots déserts, et la mer qui brille à l'horizon, comblant l'air de son frémissement immense, et le ciel qui l'embrasse tout entière, qui l'inonde de clarté, et accueille les reflets miroitants de ses eaux. Diego Valeri.
Oh. C'est en effet une méditation continue sur la vie et sur la mort qu'appelle Venise, et particulièrement lorsqu'on revient ici à son origine, à Torcello. On sent comment la ville est née. On voit des étendues plates, mornes, sous un ciel vide, avec une horizontalité de la terre qui est encore toute proche de celle de la mer. On dirait que c'est l'élément fluide primordial qui peu à peu se coagule et laisse pousser sur les bouts une végétation qui est le début de la vie. Et puis, sur ces étendues plates, les cités se sont élevées. Et nous sommes ici sur une île où il reste, je crois, 13 fermes seulement. Et on ne peut s'empêcher de méditer sur l'île primitive qui n'avait rien, puis la cité qui tout d'un coup s'est élevée et qui a compté, je crois, jusqu'à 20 000 habitants. Et puis tout cela retourne à cette même horizontalité de la terre, à peine soulevée sur les eaux. Et il ne reste plus que 13 fermes. Encore est-ce là un début de renaissance, car il y a eu la malaria à un moment, et l'île s'est trouvée encore plus déserte, peuplée uniquement de paysans malades. C'est un début de résurrection. Et d'ailleurs, c'est là que le problème de Venise se sent, et peut-être qu'il faudrait le poser dès maintenant. C'est que quand les premiers habitants se sont placés dans ces îles, le danger était le marécage. Ce qui a fait la force de Venise, c'est ce qui a fait l'installation d'ailleurs définitive à Venise, c'est qu'il y avait des marées que l'on n'imagine pas quand on n'habite pas à Venise. Il y a des montées de l'eau, une palpitation des canaux que l'on voit surtout sur le Grand Canal, c'est extrêmement sensible. On peut voir parfois flotter sur le Grand Canal un débris, et alors on le voit bouger, suivre des courants, remonter un petit canot, revenir. Il y a là toute une dynamique des courants d'eau dans Venise. Et ce jeu des marées a assuré la salubrité de Venise. Il n'y a pas eu cet envasement lent qui a tué Torcello et les autres îles aux alentours des îles de la lagune. Là, la vase, peu à peu, a monté, a reconquis sur les eaux vives. Et par la vase, c'est le retour à la mort, de même que par l'entremise de la vase qui se solidifiait, ça a été la montée vers la vie. Et c'est peut-être ce qui fait cette grandeur du site vénitien et de la vie à Venise, que l'on est extrêmement proche des rythmes primordiaux de la vie, que l'on comprend cette marée continuelle qui monte et qui descend, qui va de la vie à la mort. Et toute cette ville qui n'est plus maintenant qu'un monument. Et cela encore, c'est un objet de méditation, de penser que tout est retourné à la mort, les activités sont retournées à la mort, il n'y a plus que quelques survivants, quelques maisons, quelques fermes, et les touristes qui viennent eux aussi comme une marée à certaines heures et qui refluent rapidement pour ne pas manquer le bateau, pour laisser retomber l'île à sa solitude. Et qu'est-ce qui reste au fond dans cette île? Il reste des monuments, il reste des œuvres d'art. Et par-delà même l'œuvre d'art, elle a son sens du sacré. Il est étonnant que dans cette île qui est retournée à l'horizontalité primordiale, il y ait encore une grande verticale qui existe, c'est celle du campanile. Et cela encore est vénitien. Venise a gardé du Moyen-Âge ce sens de l'élan vers le ciel, de sortir de l'horizontale, comme les hommes du Nord d'ailleurs, avec leurs clochers et leurs beffrois, qui savent qu'une plaine n'est pas supportable dans son horizontalité, si tant il y a un grand jet. Et il est assez émouvant de trouver sur cette île, à la fois quand on débarque, des chants d'oiseaux dans les buissons, et à côté de ces chants d'oiseaux, il y a tout d'un coup ce grand campanile qui jaillit dans un élan vers le ciel et qui est comme un grand cri humain.
Si nous y montons vers le soir, Et il n'y a la personne pour nous en empêcher, car la porte qui donne accès à l'escalier en ruine se balance doucement sur ses gonds. Nous verrons s'ouvrir devant nos yeux l'un des plus remarquables panoramas du monde. Aussi loin que le regard puisse atteindre, c'est un désert sauvage de brandes marines, d'un gris cendre blafard, en rien semblable aux moors d'Écosse avec leurs mares d'un noir d'encre et leurs bruyères pourprées. Tout est morne et sans vie, couleur de toile. L'eau de mer, croupie, pénètre au cœur des racines des herbes âcres et lance çà et là un bref reflet au cours de ses méandres. Pas d'amoncellement de brume fantastique ni de nuages qui les traversent de leur course folle, mais une clarté immense, oppressante dans le chaud coucher du soleil, étendant jusqu'à l'horizon sa calme mélancolie. Oui, au nord-est, le regard pénètre jusqu'à la limite de l'horizon. Mais vers le nord et l'ouest, on distingue une ligne bleue de terre plus haute et au-dessus, plus loin encore, une chaîne brumeuse de montagnes tachées de neige. À l'est, c'est la pâleur et le grondement de l'Adriatique, plus fort par moments lorsque les vagues viennent se jeter sur les brisants. Puis les bras qui vont en s'élargissant d'une calme lagune tour à tour mauve et verte, selon qu'elle reflète les nuages du soir ou le ciel du crépuscule. Regardons plus loin, vers le sud. Au-delà des tentacules de plus en plus larges de la lagune, sortant du lac où les eaux se rejoignent, on voit se dresser une multitude de tours sombres, éparpillées parmi les formes carrées de palais innombrables, traçant une longue ligne irrégulière qui ronge le ciel méridional. Mère et fille, nous les contemplons toutes deux dans leur veuvage. John Ruskin.
Maintenant que nous voilà en marche depuis le bout du canal jusqu'au monument, dans ce court chemin, il y a tout de même une chose qu'il faut évoquer, c'est le commerce. Car je vois partout le long de ce chemin, attendant comme les araignées dans la toile le touriste qui n'afflue pas encore, des petites baraques, les éventaires en plein vent, avec le scintillement de toutes ces verreries de Venise, qui hélas sont d'un goût qui parfois décroît un peu, car il y a une influence du touriste sur Venise qui est plus forte que l'influence de Venise sur le touriste. Mais enfin, cela c'est un autre aspect. Pour le moment, c'est très joli ce scintillement. Et on n'imagine pas devant ces petites boutiques en plein air qu'il y a eu ici, et c'est très important à signaler parce que c'est le début même de l'esprit vénitien et de l'économie vénitienne, il y a eu à Torcello, en Emporium, il y a eu un port qui a été très actif et qui a commencé toutes ces importations et exportations qui vont être la vie de Venise. Par exemple, de Dalmatie, on faisait venir, c'est le début de l'importance que la Dalmatie va jouer pour l'Empire vénitien, dans lequel elle entrera. Nous le retrouvons sur le quai des Esclavons, nous retrouverons tout à l'heure ce souvenir des Dalmates et leur importance. De Dalmatie, on faisait venir le bois qui, comme la pierre, manquait. Si la pierre se trouve dans les ruines, le bois nécessite des forêts. Des pouilles, on faisait venir déjà le blé, ce qui va être un embryon du commerce vénitien. Et alors, en échange d'Orient, on commençait à faire venir des épices, des métaux qui manquent également dans la région. Si bien que, et tout ça allait se retransmettre du côté de l'Allemagne. Si bien qu'il y a eu déjà dans ce premier port, il y a eu un début de commerce entre l'Orient et l'Occident et comme l'embryon de tout le commerce vénitien.
On ne peut plus avoir aujourd'hui aucune idée de ce qu'était la richesse de Torcello, puisqu'il n'y a plus que de pauvres jardins avec des masures croulantes. Mais les monuments qui restent et qui sont groupés autour d'une place semée de marbres antiques, le petit Municipio, le petit hôtel de ville avec son escalier de marbre, l'église de Santa Fosca, cette église octogonale qui montre bien que, justement, le sens de la résurrection est toujours là, puisque l'octogone est le symbole de la résurrection, de même que l'hexagone est le symbole de la mort. Cette église de Santa Fosca, justement, montre qu'il y a à Torcello une perpétuelle idée de résurrection. Et même si aujourd'hui l'île n'est plus une ville de commerce, elle est toujours la chose de beauté, et c'est la chose de beauté qui compte le plus, et que les hommes viendront toujours chercher et admirer. Et cette chose de beauté, elle est matérialisée d'abord par la basilique. Cette basilique qui a été construite dans le style des grandes basiliques byzantines, mais avec quelque chose de violent, quelque chose d'âpre et de dur. Car il ne s'agissait pas seulement ici de bâtir un édifice à la gloire de Dieu. Il fallait aussi que cet édifice à la gloire de Dieu fût capable de résister aux intempéries. Et il y a sur la lagune tout de même assez souvent des tempêtes violentes. Et il fallait enfin que cet édifice fût capable de résister encore plus à la violence des hommes. Et c'est pour cela que la basilique, avec son campanile, donne l'impression d'une forteresse, d'une maison fortifiée. Et le campanile, c'est une tour de guet au sommet de laquelle des hommes verront de loin arriver des navires, que ce fussent des navires turcs ou simplement des navires de pirates.
Permettez-vous de signaler au passage que ce côté militaire et ces dangers sont encore visibles à l'heure actuelle dans ces singuliers volets que je crois quasi uniques, je ne sais pas si on en retrouve ailleurs, ces volets de pierre qui sont sur des gonds de pierre et qui permettent de fermer toutes les ouvertures de l'église, évidemment, au cas où il y aurait une attaque.
Justement, ces gonds de pierre, je ne crois pas qu'ils aient été installés pour préserver l'église contre la tempête. Je crois qu'ils avaient surtout pour effet d'obturer hermétiquement toutes les ouvertures de façon à ce qu'un agresseur éventuel ne puisse pas pénétrer.
Et alors, on pourrait résumer l'impression première que nous avons sur cette petite place. Vous venez d'évoquer les bâtiments civils, d'évoquer les bâtiments religieux. Il y a, pour ainsi dire, tout le germe de ce qui va être la puissance vénitienne. À gauche, nous avons donc, ce sont devenus maintenant des musées, nous avons donc le palais du conseil et le palais de l'archivio, et entre les deux existait jadis le palais du podestat. Par conséquent, c'est déjà le pouvoir civil de Venise qui s'organise, c'est-à-dire un doge, le futur doge, qui est le podestat, et d'autre part, le conseil qui va être auprès de lui. À côté, nous avons les édifices religieux qui montrent l'importance que la foi va avoir pour les Vénitiens. Enfin, il y aurait trop à raconter sur tout cela. Et des deux aspects, le pouvoir civil, d'autre part la croissance religieuse et la production commerciale, car il y a eu ici une activité très grande jadis, non seulement de commerce par intermédiaire entre l'Orient et l'Occident, mais également un commerce de laine. On a fabriqué, si je ne me trompe, la laine ici pour la première fois dans l'ensemble de la Vénétie, et c'était une grande ressource. Voilà donc tout posé dans ces quatre ou cinq monuments qui subsistent, tout ce qui sera plus tard l'armature même de la puissance vénitienne. La basilique de Torcello vous assaille de toutes parts, à la fois par tous les souvenirs qu'elle évoque. On voit surgir ici toutes les origines de l'art vénitien, toute la transmission des premiers temps chrétiens que l'on voit dans les pierres. C'était à la fois des éléments pour bâtir, mais c'était aussi des souvenirs précieux, et pour les habitants expatriés, c'était certainement leurs racines qu'ils emportaient avec eux et qu'ils retrouvaient dans l'endroit le plus sacré qui était l'église. Alors on voit naître
cet art chrétien primitif tel qu'il s'est déformé sous l'influence évidemment de Byzance et des arcas byzantins. Puis on voit cela dans l'ancien type même de la basilique quadrangulaire qui nous rappelle, elle, l'hérédité romaine et les grandes structures fermes et simples de la latinité. Et surtout cela dans cette solitude des murs nus sous ce plafond de bois. Et dans ce grand volume où la résonance même de la voix indique une sorte de solitude sacrée, et il y a en même temps l'éclatement tout d'un coup des mosaïques, et ces mosaïques à fond d'or. Cela nous montre aussi combien Venise, par l'intermédiaire de ici de Torcello, combien Venise est plus que le reste de l'Europe à cause de ses contacts avec Byzance. Certes, l'art byzantin a marqué toute l'Italie, mais c'est ici qu'on s'en emprise la plus forte. Et il ne faudrait pas oublier que si Venise est la ville de la lumière, l'art byzantin, lui aussi, était un art de la lumière. C'est l'art de la Méditerranée qui a eu deux grandes phases, si on peut dire. Il y a eu l'art de la Méditerranée faite de clarté, de logique, la Méditerranée des Grecs et des Romains, et puis il y a eu la Méditerranée orientale dont Venise était l'écho et qui, elle, était le porche de l'Orient. Et par cette ouverture, c'est tout un autre monde qui venait déferler, un monde qui ne repose plus sur l'intelligence et ses constructions, mais sur l'esprit et ses révélations. Et la lumière y a joué un très grand rôle. Et c'est pourquoi cette lumière vénitienne, même quand elle sera traduite plus tard par des hommes que certains jugent superficiels, comme Tiepolo, et même cette lumière garde un sens extrêmement profond. Et quand Tiepolo détruit les formes, les effiloche comme des nuées, les dissipe dans l'air comme des draperies flottantes et fait régner partout le vide, avec le vide, c'est encore la lumière que Tiepolo épand. Et cette lumière, elle va être développée techniquement par l'industrie du verre qui se combine avec la mosaïque, car la mosaïque, cela est tout à fait révélateur, la mosaïque romaine est faite avec des petits cubes de marbre opaque, c'est de la construction, c'est du bâtiment, tandis que la mosaïque byzantine et la mosaïque vénitienne est faite avec des cubes de verre, et le verre, c'est la lumière. Le verre a d'ailleurs, pour les hommes du Moyen-Âge, pour les hommes pénétrés de spiritualité, le verre a une portée mystique. Il est d'ailleurs curieux de voir que les musulmans également ont eu le même sentiment, à savoir que le verre est de la matière, mais c'est la matière la plus immatérielle puisqu'elle peut être transpercée par la lumière. Or, la lumière est l'esprit. C'est peut-être ici, à Torcello, qu'on peut le mieux évoquer toutes ces origines artistiques. André Grabar, du Collège de France, a très bien montré comment, dès le 3e, 4e siècle, il se forme une esthétique sous l'influence de l'école d'Alexandrie et surtout de Plotin, des néo-platoniciens, une esthétique qui est celle précisément de la lumière. Cette opposition, nous la sentons tout de suite avec la Méditerranée gréco-latine. Plotin dit, par exemple, lui qui est un platonicien, lui qui sort par conséquent de la tradition grecque, eh bien, lui qui en même temps avait été au-devant de l'Orient et avait accompagné les armées pour entrer en contact avec justement les adversaires orientaux, lui qui était l'homme des deux civilisations, il dit dans les Énéades, il n'y a pas que la forme qui est belle, il n'y a pas que les proportions qui sont belles comme tu le crois. Car où est la forme? Où sont les proportions? Dans la lumière de l'éclair ou dans la lumière d'un feu qui s'allume dans la nuit? Il n'y a plus ici ni matière ni proportion. Il y a donc une beauté qui est dans la lumière. Et cette beauté de la lumière, c'est qu'elle est précisément immatérielle. Et voilà pourquoi la mosaïque a une très haute signification. Les hommes du XIXe siècle ont cru pendant longtemps qu'il y avait de la naïveté chez les Byzantins et chez leurs imitateurs, parce qu'il n'y avait pas de profondeur, parce qu'il n'y avait pas de volume, il n'y avait pas de relief. Mais c'est qu'il s'agit justement d'expurger la matière. Et cette platitude au sens littéral, cette platitude des figures sur le fond, c'est pour les désincarner, c'est pour les délivrer, au contraire, de cette troisième dimension qui leur donnerait une masse, un poids et une consistance. Et alors, qu'est-ce qui reste? Il reste, comme dans la mosaïque de la Sainte Mère de Dieu, Mater Teu, il reste une silhouette sur un scintillement d'or. Et il est tout à fait curieux de penser que cela est même passé dans notre Moyen-Âge. La lumière étant plus parcimonieuse dans les pays du Nord, il a fallu trouver une autre technique pour exprimer cette symbolique, ça a été le vitrail. Parce que dans le vitrail, la lumière n'est pas perdue, elle n'est pas réfléchie, elle traverse le verre, donc on l'économise en quelque sorte, on lui fait rendre son maximum de présence. Mais ici, au-dessus de la Mater Teu, nous voyons l'Annonciation. Et nous retrouvons dans les textes des prédicateurs du Moyen-Âge l'idée que justement la Vierge, quand l'Esprit-Saint est descendu en elle, était semblable à du verre, parce que l'Esprit peut traverser justement la matière dans certaines circonstances, et que l'incarnation, la conception du Christ dans un corps de femme, mais par l'opération de l'Esprit, pouvait très bien être comparée à la lumière qui traverse le vitrail et qui y crée l'image, l'éclat et la couleur. Nous retrouvons la même chose chez les musulmans. Et il y a des textes, malheureusement, nous sommes ici en promenade et je n'ai pas de référence et pas de bibliothèque, mais il y a des textes arabes qui disent que la lampe de mosquée a un caractère justement sacré parce que la lumière y traverse le verre et que la matière ne lui oppose pas de résistance, de même que le corps en face de l'esprit. Il y a donc là toute une conception, et cette conception a profondément pénétré Venise. Et si nous cherchons ici les origines de l'art vénitien, il nous faut comprendre que la supériorité des Vénitiens sur le reste de l'Italie, et ce qui fait leur autonomie en tant qu'école, et ce qui fera plus tard peut-être leur modernisme beaucoup plus grand, leur fécondité beaucoup plus active auprès des modernes, c'est que les Vénitiens ne sont pas de cette pure hérédité latine où tout est matière à concept et à forme, à chose pensée. Les Vénitiens ont baigné, et dès ici, dès Torcello, dans cette ambiance de l'Orient transmise par Byzance, et s'ils arriveront plus tard à exprimer les secrets de l'âme individuelle, et très tôt, dès les environs de 1500 avec Giorgione, c'est sans doute parce qu'ils étaient entraînés à traduire les secrets de l'âme collective religieuse dès les origines du Moyen-Âge. Eh bien, revenons donc ici à la basilique. Elle est en effet un monument des plus émouvants. Après Aquilée, où il y a des restes de mosaïques plus anciens, c'est ici qu'on trouve vraiment le germe de l'art vénitien. Elle a été fondée dès 639, donc 7e siècle. C'est au temps d'Héraclius de Byzance, bien entendu. Il ne reste rien de ses origines, mais elle a été refaite au 7e siècle. Et là, nous avons quelques témoignages. Dans l'abside centrale, on a utilisé pour la mosaïque, la partie basse de la mosaïque, on a utilisé des éléments de la mosaïque ancienne. Et puis alors, au 9e siècle, on a travaillé la façade. Et enfin, c'est au 11e siècle, en 1008, que la basilique s'est développée telle que nous la voyons aujourd'hui, avec son narthex, et qui a encore cette marque byzantine, car on voit entre la poutre traversière et le chapiteau, on voit se situer ces sortes de coussins, les barbacani, ces coussinets qui se trouvent également dans l'art byzantin. Et on trouve de cette origine également les mosaïques du sol, tout cet art de la mosaïque du sol qui va se développer, qui fait une analogie au tapis d'Orient. Les églises de Venise nous donnent souvent l'impression de fouler aux pieds un scintillement de couleurs adoucies, amorties, comme dans de très vieux tapis qui seraient venus de l'Orient. Et dans cette église si pure, si nue, où se mêlent ainsi les structures de l'hérédité latine et les ouvertures artistiques de l'Orient byzantin, les grandes mosaïques vont se développer sur le mur au revers de la façade. C'est le jugement dernier qui est un amusement pour l'œil, car on y retrouve tous les motifs iconographiques traditionnels, avec l'étymasia au centre, sous la figure du Christ dans sa mandorle, ce trône vide où se trouvent à la fois le livre et les instruments de la passion, où le Christ, justement, par une symbolique extrêmement dépouillée, est peut-être plus présent que dans ses figures, car il est une parole, un verbe, et il est en même temps une incarnation qui est pour la première fois le Dieu assumant les souffrances de l'homme et sa condition humaine. Et sur ce trône vide, sur cette royauté divine, figure à la fois la parole qui enseigne les hommes et la souffrance qui a appris à Dieu la condition des hommes d'une manière effective en quelque sorte. Et là, dans ce jugement dernier, mais je céderai la parole à Marcel Brion pour développer l'opposition des mosaïques. Dans ce jugement dernier, nous trouvons toute la pensée abstraite qui s'exprime par des symboles, et en face, dans la grande mosaïque de la Mater Teu, qui est du siècle suivant, qui est du XIIIe siècle, nous trouvons au contraire la concentration d'une méditation dépouillée. Mais Marcel Brion dira tout ça bien mieux que je ne saurais le dire. À lui de parler.
Ce qui est très curieux, évidemment, dans la mosaïque adossée à la façade de l'église, c'est ce mélange de très hautes conceptions théologiques et d'un réalisme assez rare chez les Byzantins. Nous voyons ici éclater ou commencer à éclater déjà cette sorte de hiératisme byzantin qui pendant longtemps pesait sur l'art de Venise, comme il pesait sur tout l'art de l'exarchat byzantin. Nous voyons par exemple le détail de l'enfer dans ce jugement dernier, avec des têtes grouillant de verre. Et nous voyons deux étages plus haut, ce qui est très très important, nous voyons la résurrection des morts. Et il est intéressant de s'apercevoir que, à côté d'un détail pittoresque, d'un détail amusant qui frappe toujours les visiteurs et qui les divertit, les poissons qui ont été mangeurs d'hommes rejettent de leur gueule les fragments des hommes qu'ils ont mangés, de même que la terre rend ses cadavres aussi. Mais au centre de ces poissons, il y a une créature assise sur un rocher, et cette créature, c'est le génie des eaux. Eh bien, retrouver dans une mosaïque du début du Moyen-Âge, ou plutôt de la transition entre le Haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge proprement dit, cette figure antique de la divinité des eaux associée à des divinités chrétiennes, comme elle l'est dans les mosaïques byzantines, est quelque chose de très important.
Souligner, cher ami, que c'est un nu. C'est tout de même assez
exceptionnel. C'est un nu comme il convient, puisque c'est un nu antique. En somme, c'est une divinité antique. Et à côté de cette divinité antique figurent les personnages de l'Apocalypse, associant ainsi les religions d'autrefois à la religion nouvelle qui se substituait à eux. Et j'ai parlé de réalisme tout à l'heure. Il y a un détail extrêmement curieux. Nous voyons au dernier registre supérieur le Christ descendant Olympe et délivrant les personnages qui y étaient enfermés. Nous voyons les portes brisées, nous voyons les ferrures des portes, nous voyons les clés, et nous avons là, on peut dire, un exemple très curieux de la ferronnerie du Moyen-Âge. Et au-dessus de cette descente du Christ Olympe, le Christ en croix, naturellement, avec la Vierge et Saint Jean, donnant la signification suprême de toute cette grande histoire de la passion et des suites de la passion, de la rédemption, qui devait consoler les fidèles. Les fidèles qui, quand ils entraient dans l'Église, avaient été d'abord épouvantés par les terreurs de ce jugement dernier, car nul n'était certain de son salut, naturellement, et on pouvait avoir peur de ces petits diables qui luttent contre des anges pour la possession des âmes. On les voit, des petits diables noirs et cornus qui portent autour du cou et qui portent suspendus au bras des petits sacs blancs dans lesquels ils ont enfermé probablement les âmes des malheureux pécheurs qu'ils ont volés. Donc, à côté de cette image de grandeur complexe, de grandeur théologique de la fin du monde et de la rédemption définitive de l'humanité, quand nous nous retournons vers l'abside, nous avons alors, au lieu d'une foule de figures agitées dans un mouvement extrêmement chaotique, nous avons une seule figure, cette seule figure de la Vierge sur un fond d'or, c'est-à-dire seule. Seul dans un espace, non pas vide naturellement, mais au contraire un espace rempli d'infini, un espace rempli d'absolu. Ici, l'espace a rejoint l'infini, le temps a rejoint l'infini, et il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de devenir, il n'y a plus que cette grande figure de la Vierge, vêtue d'une robe couleur de pourpre, éternelle leçon de compassion et d'espoir pour les hommes. Et alors je descends de cette figure de la Vierge, je descends jusqu'à l'autel. Et sous cet autel, fait d'une simple dalle de marbre reposant sur cinq colonnes, qu'est-ce que je vois ? Je vois un tombeau. Et ce tombeau, c'est celui du premier évêque de Torcello. C'est l'évêque Paolo, c'est cet homme qui a conduit la migration de son peuple. C'est cet homme qui a donné aux Altinates le courage, l'espoir, la ténacité pour édifier ici une ville capable de remplacer la ville qu'ils avaient perdue. Eh bien, la présence de ce saint Paolo, la présence de ce corps demeurant encore dans ce sol de Torcello, d'où il a fait sortir une ville magnifique, cela aussi donne une signification nouvelle à cette basilique.
Avant de quitter cette basilique, remarquons que nous pouvons saisir ici sur le vif un des secrets de la formation de notre art d'Occident. Je le trouve en deux endroits. Par exemple, dans les pierres sculptées d'art chrétien primitif qui ont été rapportées, comme je le disais tout à l'heure, de la rive solide, nous avons, d'une part, l'élément de l'intelligence dans la symétrie. Par exemple, deux pans symétriques qui viennent s'abreuver, ce qui est un lointain souvenir, très lointain souvenir de la fontaine de vie que l'on trouve sous des formes diverses dans l'archéologie déjà. Et pourtant, ces éléments de géométrie, donc d'ordre, de symétrie, sont associés, et cela constitue presque le fond, à une espèce de sinuosité de rameaux, les rameaux de la vigne évidemment, et ces rameaux créent au contraire un mouvement liquide, fluide, c'est-à-dire exactement la contrepartie de cette rigueur trop grande qu'apporte l'intelligence. Et sous, par exemple, la grande mosaïque de la Mater Teu, qui est une Odigitria d'ailleurs, puisqu'elle montre son fils de la main, elle montre le chemin, Odos. Et bien au-dessous, il y a un décor. Comment est fait ce décor? À première vue, nous le regardons, il est géométrique. Nous voyons des brisques, nous voyons des dents. Et nous pourrions croire qu'il s'agit là justement d'une création intellectuelle de géomètre. Mais voici cette dualité qui fait la richesse de Venise, plus que en aucune autre partie on ne le trouvera en Europe, c'est que cette géométrie, en apparence si rigoureuse, si conceptuelle, cette géométrie, elle est obtenue par de la matière réelle. Ce sont des dalles qui ont été coupées dans du marbre, et ce sont les veines du marbre qui sont utilisées pour accéder accéder à l'ordre géométrique. De même, d'ailleurs, on retrouve sous l'autre mosaïque, sous la mosaïque du jugement dernier, il y a aussi un mouvement en brisque, par des lignes parallèles, qui sont obtenues uniquement par du marbre et de la matière, sans intervention de la main de l'homme. Et la couleur joue en même temps. Ainsi, à l'origine de Venise, nous voyons toutes les facultés de l'homme s'unir pour créer un art total, un art complet. Les facultés intellectuelles mettent l'ordre, mais elles reposent sur un sens aigu de la matière brute, et c'est la matière brute que parfois est tirée une coïncidence avec l'ordre. Et tout cela s'épanouit dans la couleur et dans la lumière, et qui sont, nous le savons bien, solidaires, puisque la lumière n'est que le total des couleurs. La lumière varie en intensité pure, les couleurs varient en qualité et décomposent le qualitatif de la lumière, si je peux dire. Mais nous avons là, dans ces quelques œuvres, comme l'embryon, d'où va sortir tout l'immense développement de l'art vénitien.
Les peintres, qui, avec des couleurs et des brosses, se sont enhardis à vouloir capturer ce que l'on voit sur la lagune dans les instants où le soleil descend vers elle, s'unit à elle, ont d'autant plus fatalement échoué qu'ils prétendaient fixer leurs sensations optiques dans leur vérité littérale. Les impressions que, à Venise ou ailleurs, Claude Monet enregistrait sur le vif ne sont guère que de mélancoliques et désappointants papillons morts. Quant aux laborieuses toiles sur lesquelles Turner, de ressouvenirs, peinait à l'atelier, elles ont souvent la vanité des tours de force ratés. Seule, peut-être, la musique saurait transposer non ce que l'on regarde, mais ce que l'on éprouve dans ces minutes où la contemplation extérieure et la contemplation intérieure ne se différencient plus, et qui, selon l'expression d'Edgar Poe, sont un rêve dans un rêve. Quant aux mots, quelle est leur insuffisance, leur incapacité? Ou bien il faudrait les employer pour parler de toute autre chose et pénétrer dans des régions si intimes, si confidentielles, si clandestines, que l'on risquerait fort d'y toucher à des secrets que l'on préfère se cacher à soi-même. C'est pourquoi, cher Gonzague, par pudeur, par prudence, par lâcheté, depuis un moment, vous le voyez, je passe la plume à d'autres. D'ailleurs, qu'est-ce que la mémoire conserve de transmissible, aussi bien de ce que les yeux ont vu que de ce que l'imagination ou le cœur ou l'essence, je vous laisse le choix du mot, ont éprouvé pendant ce trajet de retour entre Torcello et les Fondamenti Nuove? C'est Liszt, je crois, qui le raconte. Lorsque Chopin avait improvisé au piano, lorsqu'il avait longuement, librement et passionnément prêté la périssable vie des sons à ses aspirations, à ses nostalgies, à ses regrets, à ses espérances, à cette âme de poésie qui n'existait qu'en lui et que par lui, il lui arrivait, en finissant, d'égratigner d'un doigt rapide tout le clavier pour en faire résonner confusément, nerveusement, toutes les notes. Il effaçait ainsi ce qu'il venait de se dire à lui-même. Ces rêveries qui naissent en nous de la contemplation d'un couchant sur la lagune vénitienne à la fin d'un beau jour, ce sont nos pauvres improvisations, et elles s'effacent avant d'avoir, fût-ce éphémèrement, pris forme. Si nous devons en conserver le souvenir, ce sera, sans que nous l'ayons voulu, à notre insu. Ce souvenir réapparaîtra peut-être bien plus tard, métamorphosé en mots ou en images, et méconnaissable. Jean-Louis Vaudoyer.
L'invasion barbare qui avait contraint les Vénitiens à se réfugier dans les îles, il y a eu la puissance des Francs qui était au fond d'ailleurs la dernière vague des barbares. Les Francs ont menacé, la puissance de Charlemagne qui s'établissait, qui fondait l'Europe, a menacé puissamment Venise. Et Venise, à ce moment-là, a commencé un jeu de bascule diplomatique entre l'Empire, d'une part, qui était représenté à sa naissance par Charlemagne, et la mainmise qui la menaçait, et d'autre part, l'empereur de Byzance, qui, plus lointain, pouvait être un utile contrepoids. C'est pourquoi les Vénitiens préférèrent se mettre sous la coupe qui était peu pesante de Byzance, si éloignée, de manière à se prémunir contre l'empereur. Et c'est en 812 que l'accord fut fait entre les Francs et les Byzantins, et qu'il fut reconnu par les Francs que Venise dépendait de Byzance. À ce moment-là, le pouvoir civil va s'installer peu à peu, la population va se grouper, le problème va devenir un problème de multiplicité des îles et un problème de ponts, si on peut dire. Il y a actuellement dans Venise autour de 400 ponts, car Venise était une multiplicité de petits îlots, mais le principal d'entre eux, celui qui fut le premier habité et organisé, c'était le Rialto, le groupement du Rialto, parce que, comme son nom l'indique, la rive haute, le Rialto était moins menacé par les eaux, sortait davantage des eaux, donnait un fond plus solide. Et c'est pourquoi le verrou de Venise, le plus grand pont, c'est ce pont du Rialto qui unit les deux groupements d'îles qui se sont peu à peu agglomérées, coagulées, mais qui restent séparées par le grand S du grand canal. Venise va se situer avec deux centres, le Rialto qui sera le centre de population, puis sur la rive, pour garder l'entrée du grand canal, le Castellum qui donnera le palais des Doges avec Saint-Marc à côté, et la rue qui réunira pour les piétons et pour les cavaliers, car il y a eu pendant longtemps beaucoup de chevaux à Venise, contrairement à ce qu'on peut croire après Musset, pas un cheval qui bouge. Et la rue qui faisait l'union entre le centre de population et le centre de gouvernement, si je peux dire religieux en même temps, c'était la Merceria, le tracé de la Merceria actuelle. Voilà donc le tracé majeur de l'urbanisme vénitien. Mais il y avait un autre problème, c'était l'autre côté de l'eau. Et l'autre côté de l'eau, c'était le passage par un pont, et la largeur du canal ne permettait pas d'en faire plusieurs. C'est le pont du Rialto qui a rempli ce rôle.
C'est pour cela qu'avant d'arriver au Rialto actuel, construit d'ailleurs par un ingénieur prédestiné à le construire, Antonio da Ponte, il y eut quelques ponts successifs, mais qui étaient des constructions de bois très modestes, et avant lesquelles même il n'y avait qu'un transport par barque. En ce moment, il y avait le traghetto, ce qu'on appelle le traghetto, c'est-à-dire le bac, le simple bac qui va d'une rive à l'autre et qui était capable de transporter des chevaux et des mulets, puisqu'il y en avait. Ouais.
Tout de même, quand nous arrivons, puisque nous voilà dans le bateau et que nous voyons la silhouette un peu trapue, il faut dire, ce n'est pas une merveille. Et le président de Brosse, je crois, le critiquait, ce malheureux pont du Rialto. Mais enfin, il est si émouvant.
Je ne sais pourquoi on s'extasie si fort en parlant de ce pont. On pourrait se contenter de dire qu'il est assez beau. Il est vrai qu'il n'y a qu'une arcade, mais le lieu n'en exige pas davantage, et elle n'est pas plus large qu'une de celles du pont Saint-Esprit. Il est vrai aussi qu'il est tout de marbre blanc et fort large, car il y a dessus trois rues et quatre rangs de boutiques, à la vérité épaisses comme des lames de couteau, et les rues à l'avenant. Tout cela ne fait pas un tiers en sus de la largeur du pont neuf.
On peut pas. Il avait un si mauvais caractère, ce président de Brosse, qui n'était jamais content de rien.
Il était peut-être
vraiment le voyageur français type qui vient dans un pays étranger destiné à trouver tout mauvais.
Il est un peu jaloux de Venise. Sans doute, Venise a une telle réussite. Mais il y a aussi, cher ami, des Français qui ont la vocation de Venise et qui y viennent dévotieusement comme nous.
Nous en sommes.
Et bien d'autres, n'est-ce pas? Il est émouvant de penser, quand on approche du pont, qu'il aurait pu être exécuté par les plus grands noms, puisqu'il y a eu des projets de Palladio, des projets de Vignoles et des projets de Sansovino. Il y a là l'ombre des plus grands artistes vénitiens qui pèsent. Mais comme vous le dites, c'est l'ingénieur qui a eu la primauté, qui a été choisi. Mais il a eu bien des difficultés avant de réaliser son pont. On l'a combattu.
On a combattu son plan d'abord. Ensuite, on a combattu les moyens de construction,
On a critiqué même le choix des bois des pilotis qu'il employait. Il a employé le pin du Carso, qui était plus facile à trouver parce que tout proche, sous la main, on peut dire, sur la rive, sur la terre ferme, que les cèdres qu'il aurait fallu aller chercher en Proche-Orient et qui auraient été très coûteux. Il y a 6000 pilotis sous chaque pile.
Et tout de même, il est avec Florence le souvenir de ces ponts du Moyen-Âge avec trois rues. Enfin, nous sommes un peu emphatiques en disant des rues, mais il y a deux rangées de magasins avec une allée centrale et puis deux passages pour piétons de chaque côté. Ah, nous allons passer sous le pont et là nous allons avoir la sonorité qui chaque fois émeut. Voilà, tout d'un coup le silence du moteur. Nous sommes maintenant sous le pont. Ah, il y a des bruits de Vaporetti qui viennent faire la trompette. Et alors maintenant, nous voilà sous cette voûte, comme sous une voûte d'église, et qui va avec le froid. Le silence vient avec la fraîcheur soudaine de l'eau. Et les résonances sont tout à fait différentes. Nous sortons maintenant de cette chapelle laïque, et nous voilà maintenant devant le Fondaco dei Tedeschi. Ce sont les postes, mais c'est un témoignage des rapports de Venise avec les pays du Nord. On parle toujours de Byzance, mais il y avait tellement de capitaux allemands ici qu'après le grand incendie de 1505, on a pu dresser ce bâtiment énorme qui, au cœur même de Venise, au cœur de la vieille Venise, du Rialto, marquait l'importance des relations avec l'Allemagne. Et puis voilà aussi le plus vieil hôtel, Palazzo d'Amosto. Que de souvenirs, c'est là que les empereurs étaient reçus, Joseph II y est venu, les comtes du Nord. Et c'était d'abord un palais privé, du nom des d'Amosto, qui étaient de grands marins, comme la plupart de ces familles. Il y a même eu Alvise, qui était un explorateur célèbre au XVe siècle.
Qui est parti à la recherche des Indes et qui n'est jamais revenu.
Eh oui, c'est vrai.
À la différence de Marco Polo.
Et de Marco Polo.
Et voilà que déjà le temps de parler, nous sommes en train de longer à gauche ce qui fut le grand centre de la vie du Rialto. Il fallait bien que les provisions pour manger vinssent au cœur de Venise. Et très vite, au bout du Rialto, c'est le marché qui s'est développé. Alors, la poissonnerie, puisqu'évidemment le poisson était un élément principal de l'alimentation. Et puis, c'est là que venaient débarquer tous les produits de l'Orient. Et c'était, en somme, le grand port intérieur de Venise. Il n'est pas étonnant que, à partir du Rialto et de ce vieux centre de Venise, nous ayons toute une suite de palais à la fois byzantins et gothiques. Et nous arrivons ainsi à la Cadoro, qui est un des joyaux de Venise. C'est un ancien bâtiment vénéto-byzantin qui appartenait à la famille Zeno. Et puis Marino Contarini fit la commande du nouveau palais qui avait été conçu par Marco D'Amadio et qui fut réalisé entre 1421 et 1440 environ par Matteo Reverti et surtout par les deux Bons, la fameuse famille des Bons, Giovanni et Bartolomeo Bon.
Et il est intéressant de remarquer combien à la Cadoro s'accomplit en pleine Renaissance cette sorte de transformation dans ce que je voudrais appeler le rococo vénitien. Ce rococo vénitien qui anticipe en somme de 300 ans sur le rococo du reste de l'Europe et qui se caractérise par une sorte de folie introduite dans l'ornementation gothique. La sagesse du gothique ici s'abolit et nous voyons naître une prolifération de formes étranges, de formes capricieuses qui se combinent et qui s'harmonisent d'ailleurs très bien avec des marbres antiques et avec les bas-reliefs byzantins intercalés dans ces marbres antiques. Et ce qui est le plus rococo peut-être, c'est couronnant le palais tout entier, cette sorte de créneau, de frise de créneau, qui n'a plus naturellement aucune finalité militaire, qui ne ressemble plus à des créneaux, qui devient pure ornementation, eh bien, le moment où la forme aboutit à l'ornementation pure, au caprice de l'ornement pour lui-même, c'est déjà le caractère de ce rococo vénitien, il me semble, dont je parlais.
Remarquez-vous, cher ami, d'ailleurs, une chose qui nous frappe tellement à Venise et qu'il faut tout de même souligner, c'est que tous les arts que nous appelons baroques, et que ce soit le gothique flamboyant, et c'est une désignation enfin extrêmement vaste, tous ces arts sont ceux où la forme s'inspire de la nature fluide, et en particulier de l'eau. Et c'est pourquoi Venise a développé, c'est peut-être la raison de ce rococo du gothique dont vous parliez, Venise étant une cité maritime, a développé ce sens de l'eau. Et quand je regarde ces créneaux, vous les appelez des créneaux, et qu'est-ce que c'est? C'est un motif floral, presque.
Merletti, oui.
Oui, quand je regarde ces créneaux, savez-vous à quoi je pense? Eh bien, j'ai certaines photographies où on a étudié à une très grande vitesse d'instantané, on a étudié les éclaboussures d'eau. Eh bien, il est tout à fait étrange que certaines de ces photos viennent se surimpressionner dans ma mémoire. Sur ce découpage, c'est par une intuition extraordinaire exactement les formes des gouttelettes d'eau qui jaillissent en panache. Et rappelez-vous que vous avez à Saint-Marc aussi le couronnement. Là, ce sont des vagues en mouvement. Ce sont des vagues qui écument. Et c'est une des parties qu'on a achevées à Saint-Marc qui sont aussi de cette période gothique. Vous avez encore cette évocation de l'eau.
Et remarquez ces arcades gothiques du premier étage, tellement capricieuses, ce ne sont pas les arcades elles-mêmes, ce sont leurs reflets dans l'eau, les reflets bougeants, les formes se transforment, les formes se dissolvent et se recomposent. Donc on a l'impression que l'architecte et le sculpteur, au lieu de prendre le dessin des arcades gothiques elles-mêmes, a pris leur reflet et a plaqué ce reflet sur la façade de son palais.
On pourrait vous dire que c'est ce que l'impressionnisme a tellement senti. Et pourquoi est-ce que Monet, par exemple, qui aurait été bien incapable de peindre devant des palais italiens faits de volume simplifié et de stabilité, pourquoi est-ce que Monet a eu sa phase vénitienne et venu peindre les palais vénitiens? C'est parce qu'il y trouvait cette mouvance et parce qu'il y trouvait le jeu des reflets, et c'est lui qui l'a chanté. Mais regardez, quand nous sommes en face de cette façade, nous avons peut-être tout le secret du génie vénitien. Cette façade est dissymétrique, ce qui déjà est le propre des pays baroques et mouvants. Mais elle comprend deux parties. Il y a une partie qui vient du vieux motif, d'ailleurs byzantin de la galerie, et qui se transforme en loggia vénitienne. Il y a une transition continue. Et l'architecture est découpée. Elle est découpée pourquoi? Pour qu'il y ait un jeu continuel qui va du point le plus lumineux au point le plus obscur. Nous avons souvent eu ici évoqué les jeux de l'ombre et de la lumière. Eh bien, dans l'architecture, nous voyons qu'elle est construite tout autant de matière ombre-lumière que de matière pierre. Regardez comme tout est fait pour que le découpage de la pierre constitue une solidité d'ombre, c'est-à-dire de vide, et pour qu'au contraire, la pierre elle-même vienne en saillant, accroche des coulées de lumière, car ce sont des mouvements mouvants, comme les mouvements de l'eau, et alors les arêtes de la pierre avec ses ressauts successifs créent des linéarités lumineuses, et puis tout d'un coup des échos un peu assourdis. Or ça, c'est la partie gauche. Mais la partie droite, au contraire, et par un contraste, va créer des pleins. Et ces pleins, d'ailleurs, occupent moins d'espace que les parties déchiquetées. Il y a là un équilibre, le plein a plus de densité, il compte davantage, il y a là une très grande finesse de l'artiste d'avoir développé une fugue sur les découpages et d'avoir au contraire massé les surfaces et les pleins. Mais nous pouvons constater encore une chose dans ces pleins, c'est qu'ici nous retrouvons le mur, nous retrouvons le plan, nous retrouvons la géométrie dans sa définition de base qui est justement un plan. Mais regardons-la bien, les quelques ouvertures créées par leurs cadres, qui sont comme des cadres de tableau, en vérité des cornici, on voit que la lumière est accrochée à nouveau et joue, Et alors la partie plane, car il faut bien qu'elle existe, puisque les ouvertures ici sont réduites, la partie plane est un jeu de couleurs. Et nous retrouvons alors cet enchevêtrement mosaïcal, en quelque sorte, de la pierre, avec un gris qui lui-même se module en variation de valeur, et où viennent s'encastrer des petits carrés roses. Et cela, c'est la grande tradition également du palais des doges et du jeu des couleurs. Ainsi, nous retrouvons ce que nous avons signalé au passage dans cette petite façade. D'une part, le grand duo de l'ombre et de la lumière avec toutes ces transitions, et d'autre part, sur les plans, les modulations de la couleur.
Et c'est un tapis, en somme, qui nous rappelle que dans les palais d'Orient, certains tapis étaient étalés sur le sol, sous les pas des visiteurs, mais les plus beaux étaient accrochés au mur,
habitude
comme éléments décoratifs.
Les Vénitiens continuent à le faire. Regardez quand il a fait des régates. Et que
à tous les balcons sont recouverts de tapis,
absolument.
Naturellement. Nous l'avions vu chez Carpaccio, nous l'avions vu chez Bellini aussi. Mais là, ce côté tapis, de la partie massive, de la partie fermée, de la partie sans lumière, est très caractéristique et il évoquerait la nuit, il évoquerait l'ombre, si heureusement ces marbres exotiques très lisses, dont certains ont même le poli du jade, n'entretenaient à leur surface un jeu de lumière, un glissement de lueur, en somme qui nie l'obscurité en définitive.
Et la séparation entre les deux, c'est cette bande verticale exquise où deux cordes en quelque sorte, car il y a là une évocation du cordage dans la sinuosité, deux cordes s'entrelacent selon un rythme opposé qui fait coïncider les pleins et les vides.
Et ça pourrait suggérer une comparaison avec l'art manuelin, au fond l'art manuelin du Portugal, qui lui aussi a été fondé sur les choses de la mer, sur le cordage, sur l'encre, sur le sextant. Et nous retrouvons ici les grands peuples marins, les grands peuples de la mer, empruntant naturellement leur thème décoratif à ce qu'il y a de plus fécond et de plus beau et de plus puissant, la mer, naturellement.
Et de plus fluide, de plus vivant dans le temps.
Venise n'est pas tout entière dans le sublime de son architecture et de sa peinture triomphale. Il existe aussi une Venise mineure, une Venise de calli resserrés, tortueuses, de campielli pauvres, de sombres sous-porches, de rives désertes et comme oubliées, de maisonnettes, d'étroites boutiques, d'osterie et d'estaminets. Une Venise humble et pathétique, qui ne manque pas de beauté, qui possède même un charme à elle, pourvu qu'elle ne soit pas trop marquée de misère et d'abandon. De la fantaisie de son peuple artiste, cette Venise mineure a reçu, elle aussi, des dons abondants. Ici, un arc de porte délicatement sculpté, là, une margelle de puits en chapiteau, ou bien une fenêtre double, en ogive ou en plein cintre, une corniche dentelée, une cheminée en entonnoir, ou encore une frise, un bas-relief noir et blanc planté dans la sanguine d'une muraille de briques. Elle aussi, enfin, elle recueille le jour et hume l'air de ce ciel unique qu'est le ciel des lagunes. Du reste, les deux villes, la monumentale et l'ordinaire, ne sont pas nettement séparées. Au contraire, elles se continuent et se mêlent. Au pied du Rialto campent les marchés aux verdures et aux poissons, l'herberia et la pesqueria, épandant vastement leurs couleurs et leurs odeurs de campagne ou de mer. Tout près de Saint-Marc, d'étranges magasins de vieillerie étalent dans leurs vitrines des carafes poussiéreuses, des chapeaux hautes formes pelées, des violons sans cordes, des fauteuils à la soie râpée. Pour arriver en marchant à un palais sur le Grand Canal, il faut traverser un dédale de ruelles ténébreuses qu'on dirait creusées dans un immense rocher, comme des couloirs d'antiques prisons. Un peu partout, des choses disparates, qui jurent par leur taille et leur nature, se trouvent sans étonnement l'une à côté de l'autre, est toujours intimement mêlée à la vie des hommes. De sorte que même l'histoire la plus auguste devient, pour les Vénitiens d'aujourd'hui, familière et presque confidentielle. Des enfants et des chats jouent à l'ombre des églises célèbres. Une foule de pigeons gris fer et gris bleu se pose sur les statues des acrotères. Les eaux, en face du palais des doges ou de la salute, bercent des gondoles liées aux palis et des mouettes assises en cercle de famille. Cette harmonieuse et amoureuse promiscuité de tant d'éléments divers accroît l'émerveillement et l'impression de rêve que Venise jette dans l'âme d'un visiteur sensible dès le premier abord. Oui, Venise est une ville qui ne paraît pas vraie. Même si les cartes géographiques et les manuels d'histoire de l'art nous assurent qu'elle existe, même si nos pieds foulent ses dalles à travers Merceri et Campi, dans un bruissement long de pas et de paroles qui ressemble au chant de la mer sur le sable pendant les matinées tranquilles. Diego Valeri.
Ils n'ont pas pu résister à la tentation de venir saluer les traces de celui qui est le symbole même de cette puissance d'exploration du monde qui se trouvait dans Venise, qui était sa force et sa vitalité. Quand on débarque, évidemment, on voit cette plaque qui nous indique qu'ici furent les maisons habitées par la famille de Marco Polo, tout près du théâtre de la Malibran, futur bien entendu, qui était établi depuis assez longtemps. Et Marco lui-même a dû dans sa jeunesse connaître cette cour voisine, cette cour du Million, où on voit encore deux arcs byzantino-vénitiens avec ces mouvements de torsade que l'on retrouve d'ailleurs sur la façade de la Cadoro, ces mouvements de torsade qui créent par leurs nœuds successifs des enveloppements de fleurs, d'animaux parfois. Et c'est sans doute sous ces arcs que Marco Polo est passé souvent. Et avec Marco Polo, nous avons vraiment l'évocation de toute cette exploration du monde qui l'a mené jusqu'à l'Extrême-Orient. On a contesté parfois la valeur de son récit qu'il a écrit ensuite dans la prison de Gênes. Il avait été pris au retour par les ennemis de Venise, qui étaient les Génois. Et dans sa prison de Gênes, il a pu, pendant les quelques années, il a pu dicter le récit de ses voyages. On les a contestés, mais en réalité, plus on va, plus on vérifie le bien fondé de ce qu'il a raconté.
Et puis aussi des fonctions qu'il a exercées. Parce qu'enfin, Marco Polo n'a pas été seulement un voyageur, il n'a pas seulement été un marchand ou un explorateur, il a été aussi un grand diplomate, parce que Venise considérait que chaque citoyen vénitien qui partait à l'étranger devait y exercer son métier, naturellement, mais devait aussi travailler de toutes les façons à la gloire et à l'utilité de la République de Venise. C'est pour ça que Marco Polo a été diplomate, qu'il a eu une grande influence auprès de Kubilai et qu'il a même été le conseiller de Kubilai pendant plusieurs années.
Quand Messire Marco Polo se trouva devant le grand camp au retour de sa mission, il sut lui conter très bien tout ce qui lui était advenu et aussi toutes les merveilles et choses nouvelles qu'il avait vues. Ainsi, il plut beaucoup au grand camp et à ses barons, qui le reconnurent pour un homme de bon sens et de grande bonté. Ils dirent aussi que si la vie lui était laissée, il deviendrait un homme de grande valeur. Après cette mission, il fut appelé l'ambassadeur du grand camp, et sachez qu'il resta près de lui pendant 17 années. Et pendant tout ce temps, il ne fit rien d'autre que servir le grand camp qui avait tant aimé la relation de sa première ambassade. Et le seigneur lui fit tant d'honneur que les barons en eurent grande envie. Et ce fut la raison qui fit que Messire Marco sut de toutes ces choses plus qu'aucun autre homme en ce monde.
Si le Rialto a été le point de départ de Venise, la place Saint-Marc en a été le deuxième centre presque aussitôt. On peut l'imaginer, cette place Saint-Marc, beaucoup plus petite alors, devant la première église. Nous savons qu'il y avait même un rio qui la traversait alors et qui ne fut bouché que quelques siècles plus tard. Il y avait des jardins, de la verdure. Maintenant, il n'y a plus que cette étendue de pierre et les touristes qui s'y accumulent en même temps que les pigeons, les premiers nourrissant les seconds et les seconds salissant les premiers, selon un très vieil usage. La vue de la place Saint-Marc évoque tout ce passé, avec évidemment tout au fond Saint-Marc, façade magnifique qui est faite pour être vue en vis-à-vis, et de chaque côté les procuraties. C'était là que logeaient les procurateurs de Saint-Marc, qui était une très haute fonction, c'était de grands dignitaires. Les procuraties qui sont d'époques tout à fait différentes et qui, on le remarque peu, ne sont pas parallèles. Cette place, en effet, fuit la géométrie trop régulière et c'est un dispositif architectural qu'on trouve quelquefois comme un hommage à un monument qui est Saint-Marc. Et ce sont ces côtés qui vont en s'ouvrant, un peu comme la rue de Tournon pour le Sénat à Paris, qui prend un dispositif analogue. Et ainsi, quand on est au fond de la place, il y a une sorte d'élargissement qui compense ce que la perspective pourrait avoir de rétrécissant, au contraire. Alors, cette place est faite pour une façade rythmée à 5 mouvements, un grand mouvement central, toujours des mouvements de vagues. Et ce qui est curieux, d'ailleurs, c'est que à l'époque gothique, les décorateurs ont été entraînés par ce mouvement et ils ont ajouté des ornements de pierre qui ont l'air de vouloir figurer les jets d'écume des vagues qui se succèdent. On est donc là devant un dispositif en façade, fait à la gloire de Saint-Marc, et les procuraties, au contraire, forment deux cortèges qui mènent vers cette façade. C'est un peu un dispositif, d'ailleurs, comme on trouve, Byzance est présente toujours, un dispositif comme on trouve à Ravenne, quand il y a le cortège des mosaïques des Vierges, qui de chaque côté vont, toutes semblables, les unes derrière les autres, en cortège vers la grande mosaïque de l'abside centrale. Il y a là une réminiscence presque de ce dispositif. Et c'est ce qui fait la beauté de cette place, c'est que un endroit, elle est immobile, au fond, mais sur les côtés, elle avance, elle est rythmée. Et c'est ce qui a donné son thème architectural. Les procuratiers Vecchier à gauche, quand on est en face de Saint-Marc, qui sont l'œuvre de Coducci, sont faites d'arcatures régulières qui varient seulement entre elles selon les étages, les plus larges étant au rez-de-chaussée, les plus étroites, précipitant le mouvement, se trouvant aux deux étages supérieurs. Après l'incendie de 1512, d'ailleurs, ces procuratiers Vecchier furent achevés par Bartholoméon Bon et par Grigi. Bon était proto des procurateurs. C'est le poste que va occuper ensuite Sansovino, ce qui en fait le grand architecte de la ville et le grand urbaniste de la ville. Et en effet, Sansovino travaillera à cette place et l'achèvera plus tard, après 1532, achèvera une partie. Coducci va également faire la tour de l'horloge qui vient non pas rompre ce rythme car la tour de l'horloge fait face au débouché de la Piazzetta et elle fut bâtie entre 1496 et 1505 avec des ailes latérales surélevées d'ailleurs par la suite. Et en face, ce sont les procuratiers Nuove qui viennent prendre la suite de la Libreria, à l'angle de la Piazzetta. Sansovino bâtit la Libreria, fit entrer brusquement Venise dans le grand art de la Renaissance, et c'est son élève Scamozzi qui ensuite n'aura qu'à prendre l'enchaînement et qui retrouvera le grand thème des arcatures, mais dans un style beaucoup plus nourri, avec des sculptures, avec de grosses bandes portant des rinceaux aux plantes charnues, et avec en haut d'ailleurs une cadence nouvelle qui s'introduit, car au lieu des arcatures régulières, le dernier étage est fait, selon un thème classique bien connu, d'une alternance d'arcs qui surmontent la fenêtre, et de tympan. On passe donc du rythme courbe au rythme rectiligne. Il y a là tout d'un coup une fantaisie qui s'introduit dans la place. Et au fond de la place se trouvait jadis l'église San Geminiano, qui fut détruite sur l'ordre de Napoléon, qui militairement voulut que la place eût une unité beaucoup plus complète, sans être rompue.
C'était donc elle. Il allait une fois encore y atterrir, à cette place qui confond l'imagination et dont l'éblouissante, la fantastique architecture emplissait d'émerveillement et de respect les navigateurs abordant autrefois le territoire de la République. L'antique magnificence du palais et le pont soupir, sur la rive, les colonnes, le lion, le saint, la fastueuse aile en saillie du temple fabuleux, la mer sur la porte, et la grande horloge. Et à ce spectacle, il se prenait à penser qu'arriver à Venise par le chemin de fer, c'était entrer dans un palais par la porte de derrière. Il ne fallait pas approcher l'invraisemblable cité autrement que comme lui, en bateau, par le large. Thomas Mann. Tout est beau, tout est pur, tout est doux, tout est tendre. De tout ce qu'alentour je vois, et dans l'air qui l'accueille, il est charmant d'entendre l'écho d'un pas ou d'une voix. La fenêtre où ce soir vient s'accouder mon rêve, qui souhaite un même demain, me montre au fond du ciel la lune qui se lève ronde sur un étroit jardin. Et tout en respirant l'odeur qui vient des roses et le parfum du noir cyprès, j'écoute la fontaine, inégale en ses pauses, qui murmure avec un bruit frais. Le beau jour écoulé revit en ma mémoire, de son matin rose et vermeil, jusqu'à l'heure où s'allonge en l'eau que le ciel moire, le long cyprès d'or du soleil. Je revois le canal, la lagune, les îles, les algues brodant les palis, et les pigeons nouant autour des campaniles leur vol, couronne de midi. J'entre en quelque palais, je sors de quelque église, ma gondole est là, son fer droit. Et, durant tout un jour, j'ai eu toute Venise, Venise tout entière à moi. Et cependant, ce soir, alors que je résume ce beau jour qui vient de finir, pourquoi se mêle-t-il soudain tant d'amertume au bonheur de son souvenir? Pourquoi donc ce sanglot, ces larmes, que sont-elles, ce soupir et cette pâleur? Ah, c'est qu'auprès de moi je te sens qui m'appelle, ma tristesse blessée au cœur. Henri de Régnier.
Le soir à Venise n'est pas synonyme d'apaisement, et quand on est sur la piazzetta, comme nous sommes maintenant, le tintement des verres indique assez, puisque c'est un repérage sonore que permet la radio, que nous sommes au café, ces cafés qui sont sur la place et où souvent s'ajoute le bruit des orchestres, celui de la piazzetta, les deux de la piazza, qui jouent naturellement des airs différents, qui parfois se mêlent, ce qui est un peu une souffrance pour les mélomanes. Eh bien, en cette fin d'après-midi où l'agitation s'augmente parce que chacun est libéré de son travail et vient se promener sur la place et parler et marcher au milieu des pigeons, nous pourrions peut-être évoquer au pied des deux grandes colonnes, qui étaient trois d'ailleurs, et qui étaient ramenées elles aussi, fruit des pillages de l'Orient, nous pourrions au pied des deux grandes colonnes peut-être évoquer ce centre de la vie vénitienne.
Oui, il faudrait dissiper une erreur que commettent généralement les touristes, c'est de croire que la colonne de droite, quand on regarde le large, représente Saint-Georges et le dragon. Eh bien, ce n'est pas du tout. C'est simplement Saint-Théodore, qui était un saint égyptien, monté sur un crocodile qui lui servait à traverser le fleuve.
Cela dit, parfois, cher ami, on dit parfois que c'était primitivement Saint-Théodore, et savez-vous même que c'est un empereur romain qui a peut-être la tête de Mithridate. C'est fait avec des morceaux. mais on dit qu'il a été transformé par la suite pour lui donner justement l'allure de Saint-Michel ou de Saint-Georges.
Ou de Saint-Georges. Mais enfin, moi, voyez-vous, comme on parle très souvent de Saint-Michel et de Saint-Georges, et jamais de ce pauvre Saint-Théodore, si vous voulez, je reste sur la tradition.
Premier patron de Venise.
Premier patron de Venise.
Avant Saint-Marc.
Et monté sur un crocodile, ce qui est assez pittoresque dans cette ville. Je voudrais rappeler simplement qu'entre ces deux colonnes se passait un événement assez fréquent dans la vie de Venise, c'était les exécutions capitales. Très souvent, on condamnait les gens à mort et c'était là qu'on les exécutait, sommairement. C'est de là qu'a été exécuté, par exemple, un personnage qui a joué un très grand rôle dans la vie militaire de cette ville. Ça a été le fameux condottiere Carmagnola, hein, qui était un très, très vaillant soldat, un homme très courageux, très généreux, qui a eu le défaut seulement d'être un peu trop exigeant, un peu trop orgueilleux. La République lui a fait son procès et lui a coupé la tête. À l'autre extrémité de la piazzetta, nous voyons une colonne qui, elle, est très basse, au contraire, qui est en porphyre rouge. C'était celle sur laquelle montait le juge ou le héros du juge qui annonçait le bannissement d'un citoyen qui avait cessé de plaire et qu'on expédiait ainsi à l'étranger. Cela donne une nuance peut-être un peu funèbre à cette piazzetta si gaie et si animée, mais nous sommes au crépuscule et peut-être est-il bon de rapporter aussi ces choses tristes.
Ajouterais-je, cher ami, que vous avez parlé des exécutions capitales entre les deux colonnes, mais c'était celles qui faisaient partie de la publicité de la justice. Mais n'oubliez pas qu'il y a derrière le quai des Esclavons une petite rue qui s'appelle la rue de la Mort, et c'était là que l'on exécutait le menu fretin, celui qu'il fallait opérer clandestinement.
Si c'était la justice sommaire dont on ne parlait pas. Imitons cette discrétion et n'en parlons pas non plus.
Nous avons parlé du palais des Doges, nous avons parlé des colonnes qui marquent les deux extrémités de la piazzetta, mais nous avons jusqu'ici négligé la façade qui fait face à celle du palais des Doges. Et dans l'histoire de l'art vénitien, en face du palais des Doges, qui marque la prolongation du gothique, de ce gothique vénitien si particulier, si marqué encore de byzantinisme par certains côtés, c'est la Renaissance qui éclate avec la Libreria, exécutée par Sansovino. Sansovino était un Florentin, donc formé par cette Italie classique qui jusqu'ici avait été exclue du développement de l'art vénitien. Au surplus, il avait fait un séjour à Rome et il en est parti seulement en 1517 pour venir à Venise. Il était formé par les leçons de Bramante, par les leçons de Raphaël. C'est dire qu'on voyait s'introduire brusquement au sein de l'art vénitien un représentant de cet autre pôle qui jusqu'ici faisait seulement vis-à-vis au développement de l'art vénitien. Et Sansovino devint tout de suite un personnage très important. Il fut reçu par le doge Andrea Gritti, il fut chargé de consolider les coupoles de Saint-Marc, et puis il devient proto des procurateurs de Saint-Marc, ce qui était un poste capital puisqu'il avait en somme le contrôle de tout l'embellissement de la cité. C'était non seulement de l'architecture, c'était de l'urbanisme qui revenait à Sansovino. Et il a travaillé également sur la place Saint-Marc. Mais après avoir fait en 1532 le palais Corner, il commence la rénovation de la place Saint-Marc. Et c'est là qu'il va à l'angle de la piazza et la piazzetta. Et principalement sur la piazzetta, il va dresser la Libreria. Cette Libreria est encore pénétrée de certains motifs byzantino-gothique qui s'attarde pour ne pas contredire cette continuité de l'art vénitien, mais on y voit surgir l'art de la géométrie, les grands entablements, les verticales marquent les aplombs rectilignes qui sont à la base de tout art classique, et avec la corniche qui termine, et tout de même déjà une sorte d'ébauche des développements futurs du baroque avec cette rangée extraordinaire de statues qui termine cette géométrie par une animation de personnages qui se découpent sur le ciel. Et c'est en somme comme la réplique humanisée et humaniste de ces créneaux du Palais des Doges qui étaient simplement une étrange géométrie pleine de courbes et de fantaisies. La libreria fut achevée par son élève Scamozzi, et par là, il passe la main à la continuité de l'école vénitienne. Mais tout de même, avant de le quitter, n'oublions pas qu'à l'angle de sa libreria, à l'angle de la piazza et de la piazzetta, se trouve la loggetta, à la base du campanile. C'était simplement une salle des gardes. Et il est amusant de penser que jadis, elle était entourée de boutiques qui ne disparurent d'ailleurs que très tardivement et que l'on voit encore dans tous les tableaux de Guardi.
Venise désirée, quelle amoureuse tu dois être pour te cacher ainsi sous tes voiles de soie et de vapeur légère, pour mettre ainsi en passion l'homme qui te poursuit. Tu le fais halter d'impatience. Tu irrites son envie jusqu'à la peur de ne plus te trouver. Es-tu si sûre de tes caresses? L'es-tu de combler l'ardeur que les promesses de ta beauté enivrent? Et ne crains-tu pas de décevoir une si longue convoitise? On arrive à Venise, comme après tous les méandres de l'insomnie, on finit par descendre sur la plage d'un songe. On vole vers Venise comme un rendez-vous d'amour. La hâte du désir fait compter les minutes lentes. On désespère de toucher au bonheur. La ville ne paraît pas, rien ne l'annonce. On la cherche au levant. On s'attend à en voir quelques signes et sur le ciel flotter les pavillons de la chimère. L'horizon où elle se dérobe est un infini muet, miroitant et désert. Parfois, on a cru découvrir une tour, un clocher sur la plaine marine, mais on doute du mirage salin. Est-ce la mer? Est-ce la terre ferme? Ou plutôt, quelque mélange fluide? Quel transparent accord des deux pattes sur la palette? Tout est ciel. C'est le ciel immense des salines. Une vasque de rose et d'azur tendre, un océan de nacre qui irise çà et là quelques perles de nuages. On appelle la mer et on l'a au-dessus de soi, ce firmament tranquille. Puis le crépuscule rougit, une tache de sang coule sur la voûte et s'étend vers la terre. Venise n'apparaît toujours pas. Elle est là-bas pourtant, dans l'ombre lucide, d'un violet si délicat et si languissant qu'on pense au sourire de la volupté douloureuse. Je ne voyais encore ni ville, ni village, ni voiture, ni bateau. Mais le ciel portait des voiles, et les nefs y volaient à présent, dorées à l'étrave. Il me semble que tout bruit a cessé. Je glisse sur un lac, comme sur un bassin le martin pêcheur. Et voici la mer, la mer, la mer. Je la sens, je la devine. Je suis enivré dès lors. J'ai connu la sirène pour la première fois au jour du plus long crépuscule. Je trempais dans un prisme liquide toutes les couleurs et toutes les nuances, depuis la pourpre jusqu'au reflet de la soie verte la plus pâle quand elle est comme l'ambre ou comme la liqueur d'absinthe à peine battue d'eau. L'œil rouge du ciel s'éparpillait en pétales sans nombre. Une caresse de l'air me touchait tendrement au front et aux tempes. L'odeur enivrante de la mer me vint aux narines, le souffle suave et salé qui lève des flots. Enfin, des clochers pointus sortirent de la lagune comme les épines d'une rose, et ils étaient safran du bout. J'arrivais. On rêve de Venise avant d'y être, et sans le savoir, soudain, on y est en rêve. Ce fut ainsi à la fin du jour que j'entrai chez la reine des sirènes. Le vacarme du train, le grondement de la ferraille et des machines tomba comme une pierre dans un puits. Je sortais de la gare comme je me vis sur l'eau dans un fleuve de fleurs. Le ciel, sur les étages en dentelle, était une lèvre de sang vermillon. Puis l'adorable silence. La gondole me prit, et de la nuit entière, je ne la quittais plus. Je me roidissais de joie sur les profonds coussins. Je n'avais rien avec moi que moi-même. Bonsoir à la cohue. Je ne pensais à rien. J'avais fini de me suivre et je m'étais retiré dans la lumière du couchant comme il m'arrive. Je fais don de ma vie à cette heure. J'y suis corail et madréport, bracelet pour la reine. Je me sentais plus libre que le goéland sur les roches d'entre le rat et sein. J'allais dans la légèreté du dernier rayon qui transperce. La gondole file sur les flots d'émeraude et de pollen rouge. Je suis flèche et fleur moi-même, dans cette air, sur cette eau verte, parmi toutes ces pierres qui fleurissent. Habile, toujours aux aguets, prompt et docile, penché à l'avant sur sa rame noire, le souple gondolier est bon à voir, comme l'ouvrier qui aime son travail. Et il tourne le dos à son maître pour qu'il soit roi de son plaisir. Le sang doré de la lumière ruisselle des façades en effusion nuptiale. Je croyais voir Isulte, jusque-là ensevelie aux vagues de Cornouailles, surgir doucement de la mer orientale, reine bayadère, damnée peut-être, mais dans la joie d'un éternel plaisir. Ses dômes, ses pointes, ses seins, ses doigts, ses ongles de Venise, tout n'était que caresse pour le ciel brûlant et pour l'eau caressante. Les flots éblouis de la poupe, la baise et la suive, battant des cils. Au Rialto, j'ai rangé des chalands pleins de fruits. L'odeur des fraises parfumait la rive.
René Huyghe et Marcel Brion vous ont fait visiter Torcello, Rialto et Piazza San Marco. Au cours de l'émission, vous avez pu entendre des textes de Diego Valeri, John Ruskin, Jean-Louis Vaudoyer, Charles de Brosse, Thomas Mann, Henri de Régnier, André Suarez, lus par Pierre Delbon, Paul Barré, Roger Brett, Maurice Nazil et René Farabet. Ainsi s'achève Heure vénitienne. Une série d'émissions produites et réalisées par Bronislav Vorovitch et enregistrées à Venise par René Huyghe et Marcel Brion de l'Académie française.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 septembre 1969. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.